connaissance concrète.
Pardon Bernard, tu disais quoi? Tu disais quoi là?
On est sur la qualité de la vision cachée.
Merci.
Et là, vous comprenez du côté forme, c'est-à-dire non-soi, chez l'être humain, eh bien, ça va produire l'illusion astrale et la connaissance concrète. Du côté de la vie, l'illumination. Mais la finalité au niveau de la conscience cosmique, c'est l'installation d'une station de lumière sur la Terre. Et là, en fait, il faut que vous regardiez le futur, et le futur, c'est que du plan terrestre, c'est-à-dire dans ce cycle où la Terre est dans sa ronde au plus bas de la matière, eh bien, c'est d'instaurer une présence d'être, en conscience d'être, qui joue un relationnel d'échange cosmique. Mais là, on dépasse la dimension humaine. Comment ?
Excuse-moi, vous parlez de la mémoire qui était pleine.
Et par conséquent, il s'agit pour les grandes vies de pouvoir épanouir la vie dans toutes les dimensions de sa manifestation. Il est faux qu'un jour, l'humanité marche comme un messager divin, Mercure, au milieu des reines de la nature. Alors, troisième tendance, l'instinct portant à formuler un plan. Là, vous pouvez mettre au-dessus réalisation au mérite. Réalisation au mérite. Alors, vous avez l'activité instinctive, puis l'activité intelligente, puis l'activité intuitive ou dessein, et activité illuminée en ce qui concerne l'humanité. Ben là, on est à nouveau dans ce que je viens d'évoquer, dans la dimension de Mercure. Du côté forme, cette faculté de planification conduit à une activité séparative et égoïste. Dans le monde où l'on est, l'individualité a malheureusement abouti à la séparativité. Du côté de la vie, le processus d'unification. Ceci constitue la cause fondamentale de l'évolution elle-même. Mais si vous suivez ce qu'on a évoqué tout à l'heure, à savoir que la vie la plus grande a pulvérisé sa vie, eh bien, il y a le phénomène de planifier le retour à l'unité. Vous noterez par là que, en fait, les aspects sont interpénétrés. Quatrième règle, le besoin d'une vie créatrice au moyen de la faculté divine d'imagination. Comme on peut facilement s'en apercevoir, ce besoin est étroitement lié au quatrième rayon d'harmonie produisant unité et beauté à travers le conflit. Alors, le quatrième rayon est l'énergie spécifique de la quatrième hiérarchie créatrice, la hiérarchie humaine. Vous avez ce quatrième rayon qui a deux aspects, l'un harmonie, l'autre conflit. Si nous plaçons notre approche au niveau cosmique, les énergies qualitatives venant du soi cosmique sont harmonie, plan bouddhique cosmique. L'énergie venant du non-soi sont conflit. Et toute la finalité de la quatrième hiérarchie créatrice, c'est-à-dire des vies dans le règne humain, c'est d'établir l'alignement positif, c'est-à-dire l'harmonie qui s'écoule et fait reculer et élimine le conflit. Notez bien, dans votre gestion de cette énergie qui est permanente en tant que racine de vie, puisque nous appartenons à la quatrième hiérarchie créatrice, c'est d'arbitrer entre l'énergie fondamentale venant du côté vie, l'harmonie, et l'énergie qui lui fait écho, mais qui malheureusement émane du non-soi lorsque ce non-soi domine et qui est conflit. Voilà toute la dualité de Castor et Pollux, et de Caïn et d'Abel. Cela dit, vous avez l'aspect réactivité à la synthèse et qui produit la souffrance, et la souffrance est créatrice de l'imagination créatrice.
Oui,
je vous en avais pour preuve ces êtres humains qui ont échoué au moment de la Lune, hein, de la chaîne de la Lune, et qu'on retrouve aujourd'hui sous l'appellation peuple juif. Vous voyez que parce qu'ils ont échoué et qu'ils ont du mal à dépasser la séparativité, le peuple juif a beaucoup souffert, et vous voyez chez le peuple juif beaucoup de personnes dont la créativité par l'imagination créatrice, notamment dans les arts, est à la pointe, on va dire, de la réalisation. La souffrance, qui est l'épuration du non-soi, et par conséquent la souffrance, ben, elle est liée à la masse kama manas, c'est-à-dire l'illusion et le mirage chez l'homme, donc son passif karmique. Et bien cette épuration, l'astral va être transformé en imagination créatrice. Donc vous pouvez dire à quelqu'un à côté, si tu souffres, imagine-toi que tu auras beaucoup de facultés en la matière.
C'est vrai qu'à l'instant T, ça va l'aider, sûrement, hein? Ça. À l'instant T, ça
va l'aider. Tu peux le dire autrement, tu dis, tu souffres, tu n'imagines pas ce qui va t'arriver. Alors bien sûr, le conflit du côté forme, ça va donner les conflits, hein, les guerres, les batailles. Hein. Du côté de la vie, elle va développer le rayonnement vibratoire et bien évidemment toute l'émergence de la dimension de Mercure. Le messager des dieux.
Ah oui.
Le messager des dieux, c'est celui qui a comme énergie caractérisée le quatrième rayon. L'intention divine, c'est moi, Dieu, je suis matière. Ce qui veut dire que à un moment donné, les êtres humains vont marcher en tant qu'être divin sur la terre. C'est ce qui attend. quand un être est relié à sa racine de vie, il est en émergence divine. Puisqu'en fait, sa motivation maintenant fondamentale, c'est que la volonté du Père soit faite sur la terre. Et cette volonté, c'est le bien de l'ensemble. Mais c'est pour que ce qu'on évoque là, c'est bien sûr un horizon dans la mesure où nous sommes dans l'épanouissement de conscience de l'âme cosmique. Mais vous voyez quand même, après tout ce qu'on a déjà pu appréhender, on va dire, sous l'aspect de préparation propre et tout ça, vous voyez quand même que ça ne vous est pas étranger, tout ça. Alors, le facteur d'analyse. Ça, bien évidemment, c'est typique du quatrième règne, mais qui doit laisser émerger le cinquième. Alors, ce facteur d'analyse, malheureusement un mauvais emploi, c'est la critique. Mais la qualité fondamentale divine derrière tout ça, c'est l'habileté à saisir ce qui est accessible à la réalisation. Tu as le dessein divin. C'est la finalité, l'aboutissement du pourquoi de la manifestation. Le plan, c'est où on en est. Mais l'analyse, c'est ce qui permet de cueillir la phase du dessin qui va devenir strate du plan. Pour parler autrement, Maitreya, il y a 2000 ans, il est venu parce que il a ressenti à son analyse, enfin l'analyse hiérarchique, que le temps était venu pour que des êtres humains appréhendent l'énergie d'amour-sagesse. Alors, du côté forme, ben, l'analyse, ça va donner la séparativité, donc la critique. Tandis que du côté vie, ça va conduire à la compréhension qui tend à l'identification. Et là, s'il vous plaît, analysez en vous ce qui vous aviez pu intégrer comme fossé infranchissable entre Dieu et vous. Et qu'on vous a subtilement amidonné avec. Et qu'on continue d'ailleurs à vous amidonner.
Que ça mange plus trop.
Ah ben non, parce que la mécanique céleste, elle avance, elle.
Quoique, pardonnez-moi de le dire, je viens de faire un voyage au Venezuela, et c'est très prégnant, c'est très présent là. Ouais. Ça et d'autres aspects religieux.
Mais c'est inhérent, parce que l'être progresse, et par conséquent, il est dans la conscience collective de l'humanité, mais s'il progresse, bah, il dépasse des champs de conscience qui sont dépassés. Alors, cette analyse produit la manifestation sur Terre du cinquième règne de la nature. C'est-à-dire que bah, les êtres, ils ne veulent plus, si vous voulez, avaler tout cru ce qu'on leur dit. Ils font preuve de discernement. Hein, notez qu'à côté de l'analyse, il faut mettre discrimination et discernement. L'être ne veut plus être manipulé, au sens où Manu, ça vient de Manas. Il ne veut plus
être pris par la main aussi, ça veut dire.
Oui, mais l'origine, si tu veux, de Manu, c'est Manas. Et alors, aussi, curieusement, et là, vous allez peut-être avoir un peu de bon en avant à faire, la hiérarchie elle-même est la manifestation extérieure et intérieure du sacrifice des divins Manasaputra, c'est-à-dire les anges solaires.
Manasaputra, les anges solaires ?
Oui, c'est les anges solaires, c'est que nous sommes. C'est la quatrième hiérarchie créatrice, si tu veux, qui, ayant analysé le plan divin, ayant saisi que le temps était venu pour elle, en tant que vie, à rejoindre l'évolution générale de la vie, c'est-à-dire d'intégrer les véhicules hommes-animaux, c'est parce qu'elle a analysé que pour elle, le temps était venu. Pour justement répondre à un aspect du dessein divin, de pouvoir dire, moi, Dieu, je suis matière. Donc la quatrième hiérarchie incorpore les véhicules qui sont proposés par les règnes inférieurs, donc le corps animal.
Donc ces anges ont incorporé
Oui.
des véhicules.
Oui,
humains.
C'est-à-dire qu'en fait, en tant que tel, ils portent en eux la soi-conscience,
oui.
nécessaire dans la manifestation au plus bas de la matière. Maintenant, ils doivent aussi comprendre qu'ils sont divins en tant que source de vie et que par conséquent, ils ont à eux-mêmes été investis par les hiérarchies supérieures.
Évoluer ou investir ?
Ben, ils ont à être investis par les hiérarchies supérieures, donc des vies plus avancées. Hein ? Simplement, il faut comprendre deux choses. Un, c'est que l'homme doit marcher en tant qu'être divin sur la terre et par conséquent incorporer dans sa manifestation, mais je parle terrestre et subtil, les sept hiérarchies. Donc l'homme doit devenir divin au sens où, parce qu'il devient sauveur, il permet aux vies de la troisième hiérarchie créatrice de les recevoir, et en tant que sauveur, la troisième hiérarchie créatrice lui donne l'immortalité. Et puis ensuite, deuxième hiérarchie, liés à des vies solaires et ensuite à des vies cosmiques. Donc naturellement, l'être est fait pour, dans son épanouissement intégral, être la synthèse des sept hiérarchies.
Et ces anges gardent leur soi-conscience une fois qu'ils ont pénétré une incarnation pour se...
Ces êtres, ces anges solaires que nous sommes. T'as jamais entendu parler des anges déchus ? Eh, j'en ai parlé, hein, souvenez-vous. Hein. Je vais pas ressortir, comme on dit, des. Hein. Mais les anges déchus, on en a parlé. Hein. Il y a la chute normale de descendre dans la matière, et puis il y a la chute des anges qui n'ont pas voulu, alors que c'était leur dharma, leur contrat de vie, descendre en disant on prend pas ces véhicules, ils sont poilus, barbus, velus et mal foutus. Ce ne sont pas dignes de nous. Hein. T'imagines, toi, si on te proposait une bétaillère des années 20 hein pour te balader Ça va
ouais.
Bon. La chose qu'il faut que vous compreniez, c'est que la vie est don, et quand un être est en conscience de soi, il est naturellement un sauveur. Puisqu'il vit l'amour, dans sa dimension intégrale et que par conséquent, il se sacrifie pour sauver et rendre sacré. Et voilà. Alors, vous voyez, il fait fort, Joel Kull, parce qu'il dit « Chaque grand conducteur mondial est nécessairement un sauveur souffrant. » Il n'y a pas que les grands. Tous ceux qui conçoivent la vie comme un don sont des sauveurs.
Quand on parle de sacrifice, ça peut engendrer de la souffrance, non ? Ou alors, ça dépend comment on perçoit ce sacrifice.
Alors,
c'est sacré.
On va jouer sur les mots, mais ça n'est pas uniquement que le jeu, c'est très profond. Sacrifice, ça veut dire rendre sacré. Et comme la vie est don, c'est naturellement la nature de la vie. Et par conséquent, un être qui porte en rayonnement la vie. On va dire un être de lumière, donc un être du cinquième règne. Cet être en permanence exhale dans son aura des richesses de vie au-delà de la nature humaine, du quatrième règne. Et cette énergie qui est rayonnée est neutre. Elle booste les êtres qui sont bien orientés vers leur être et elle active les points de faiblesse chez les autres. À ce moment-là, vous avez un effet destructeur, mais un effet destructeur, non pas du véhicule de la forme, mais en fait, réactivité de souffrance des vies mineures des autres, qui bien évidemment peuvent se traduire par une montée au créneau contraire. Hein. Mais c'est pour générer quand même le processus de libération de la vie centrale. Ne soyez pas étonnés dans vos rapports, dans vos contacts, que votre rayonnement peut provoquer des réactions violentes. Quand un être est orienté vers le bas et qui se prend un afflux d'énergie, c'est pour ça, si vous voulez, que l'énergie du père, hein, de Sambala, qui a été pour la première fois lâchée véritablement au milieu du 19e, eh bien, a commencé par avoir des réactivités du négatif. Hein, et vous avez, en Allemagne, vous avez... comment il s'appelle le premier ministre là.
Bismarck.
Hmm?
Bismarck.
Et puis ensuite la suite. Hein?
Bismarck, le Kaiser, la compagnie.
Alors, sixième qualité, innée dans l'homme, idéalisé. Pour les astrologues, dans votre étude préalable pour situer le niveau d'évolution de l'être qui est en face de vous, vous pouvez lui demander de vous situer son niveau de conscience de l'idéal qu'il a. Vous pouvez demander à l'être que vous avez en face, de vous définir le niveau de conscience de l'idéal qu'il a en lui. Alors bien sûr, si c'est... quand je sors de mon schéma, j'ai du mal. Si c'est...
Si c'est de devenir footballeur, par exemple.
Oui, ou non, mais je voulais blaguer avec... Ah, la baraque à frites américaine.
McDonald's.
Mais vous aurez les strates de conscience en face.
Moi, je doute qu'ils comprennent la question.
Non, mais non, parce que regarde, ton mari l'a bien illustré, il dit c'est le foot. Il te dit, mon pied, c'est le foot. Ben voilà, oui, la voir. Vous allez avoir deux paliers là-dedans, vous allez la voir, l'être, et puis après le serviteur. Mais ça vous permet de situer, alors à partir de là, il faut bien faire attention, je ne vais pas revenir sur l'astro, mais où il est sur la croix mutable, où il est passé sur la croix fixe, où il est sur la croix cardinale. Et on n'est plus du tout dans le... Hein. Ah oui, et puis d'un côté, s'il est sur la croix mutable, il va tomber dans les travers de l'hydre à neuf têtes. Hein, avec tout ce que ça signifie de force brutale, alors qu'à l'opposé, il va être dans justement des dimensions divines. Mais il faut faire attention, quand un être est très très avancé, il n'est pas venu, comme on dit, sur du velours, hein, c'est-à-dire qu'il prend un domaine d'énergie où le chantier terrestre a besoin, comme on dit, d'en prendre un bon coup de travail. Hein ?
Comment se fait-il qu'il y a des gens qui font un chemin initiatique et spirituel qui avance et arrivent à un certain niveau, à un niveau certain d'évolution, ils se cassent la figure, ils inversent complètement le...
Normal. Normal. S'ils marchent en lièvre, oui, c'est ce que tu évoques, s'ils marchent en lièvre, ils vont pousser, bien sûr. Et les lunaires qui n'auront pas été, tu vois, épurés, voilà, on est encore dans le phénomène de la cuisine céleste. Ils auront voulu violemment brûler le, tu vois, la peau du lion, et puis à un moment donné, ça bloque, ça sature, et puis voilà.
Mais pourquoi ça s'inverse ?
Mais parce que tu as le retour du bâton.
C'est le retour de karma, c'est tout ça.
La souche de bâton. Tu prends la même chose pour illustrer, tu prends un gars qui est un grave alcoolique, hein, il va dire, ah, ça suffit. Bon, il va tenir 6 mois. Puis quand il va se lâcher, ça va être la débandade totale. Il aura trop forcé. Mais tu as les phénomènes inverses. Tu prends par exemple Foucault. Foucault, comme on dit, il a mené une vie de patachon. Et puis il s'est dit, je vais aller au désert pour me serrer la ceinture. Donc voilà, tu as les deux versions.
Saint-François.
Oui, tu as les deux versions. Si tu veux, la sagesse, c'est de dire « je ne prétends pas mettre des bottes de 7 lieues ». Parce que les 7 lieues, c'est les 7 plans. Hein.
Même le chat beauté,
il finit en beauté.
Non, ça, on parle de cas, mais ils ne sont pas si particuliers que ça, si tu veux. C'est pour ça que d'une autre façon, tu le vois par exemple dans le travers, mais qui est normal des religieux, hein, des mystiques, ils sont d'un côté en sexe divin. Hein, la fois prochaine, Joël me rappelait qu'on va traiter de ce sujet qui n'a rien à voir avec... Et puis, ils activent en contrepartie l'aspect sexuel physique. D'où les perturbations liées souvent au monde religieux. Alors, la 7e règle. L'action réciproque des grandes dualités. C'est ce qu'on vient d'évoquer au niveau humain. La dualité sur le chemin du disciple. Mais il faut savoir que cette dualité, le maître, pour employer les termes du sujet, le vit par rapport au père. Parce que il a eu à gérer la dualité personnalité-âme, et puis maintenant il faut gérer cette fusion réalisée, âme-personnalité, avec la présence, c'est-à-dire avec le père. Et c'est pour ça que vous comprenez que le père est un feu dévorant. Parce que, comme on dit, lui, il veut une maison cristalline. Et par conséquent, les scories, les faiblesses sont chauffées.
Alors, on se retrouve à la Tanor.
Nous sommes à la Tanor.
C'est comme ça qu'il peut finir. Il y a le feu, c'est tout.
Mais si nous pouvions voir la vie planétaire telle qu'elle peut être vue par les maîtres eux-mêmes, nous noterions le modèle qui émerge dans toute sa beauté ainsi que la structure de la pensée de Dieu pour l'univers. La chose qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est le long fleuve de la vie qui se déroule à travers toute la manifestation. Et ça a une toute autre dimension que le pauvre parcours humain. Lorsque l'être arrive en conscience de l'un, intégré, à ce moment-là, tout est vu sous l'aspect que dans la manifestation et dans tous les cycles se déroule la vie de celui qui donne la vie à la planète. Et dont le vécu, on va dire humain, mais il y a aussi les autres règnes, eh bien, révèle en fait son stade de réalisation de l'ouvrage céleste qu'il a à faire. Ce qui est de nature à nous inviter, à nous inciter à y participer. Il faut que vous soyez peut-être conscient que le Père vous a confié sa vie. La vie qui est en vous, c'est la vie du Père. Et au même titre que, à l'inverse, quand l'être se laisse aller au négatif, il s'englue dans le bourbier de la terre et il s'aveugle, eh bien, quand vous faites à l'inverse ces expansions de conscience, le Père vous fait monter dans ces espaces de conscience. C'est un processus logique, naturelle. Hein, il faut, si vous voulez, sortir de tout ce qui est miraculeux. Quand les êtres sont en conscience de soi, il n'y a pas de miracle. Il y a simplement la vie est réglée scientifiquement. Mais cette science est une méta-science. Le chef d'orchestre en chacun de nous, c'est le Père. Donc je pense qu'on peut très simplement se dire tout est réglé, comme on dit, au millionième de millimètre.
Comme du papier à musique.
Et comme vous avez vu que tout à l'heure, l'énergie de volonté liée à notre racine de vie, le premier aspect, c'est cette pédale qui laisse aller de l'avant, qui incite ou qui retarde. Voilà, lui, il est le grand ciseleur, il est le diamantaire. Il taille ses diamants que sont ses fils. Sois pur pour que je puisse te tailler en diamant. Ah, il y a des impuretés! Sur le gris.
Ça casse.
On les crame.
Ça crame le diamant.
Ah bah oui, au feu, oui. Mais là, on n'est pas dans le feu terrestre. Là. Le monde manifesté tout entier est entraîné dans la même direction que le dessein divin. Cela n'apparaît pas à l'homme immergé dans les détails de l'existence. Et tout ça dans une synthèse et une beauté de détails plus grandes. Du côté forme, cela produit le sentiment... attendez, là on touche à quelque chose... Je voudrais le souligner parce que c'est quelque chose qui va être assez éprouvant pour vous lorsqu'on arrive au contact monadique. Vous savez que le contact monadique, lui, gère le rythme. Et le rythme est quelque chose qui est difficile à appréhender au départ, parce que l'être veut à la limite en faire trop. Alors, du côté forme, cela produit le sentiment d'être emprisonné par le facteur temps. Il a l'impression de manquer du temps. Il est victime de la vitesse du temps.
Ouais. Le temps n'existe pas.
Attends. Oui, mais le temps est précieux.
Le temps est précieux.
Bon, alors, du côté vie, le résultat est une tendance, est une existence rythmique. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à gérer le temps. Et il faut apprendre à avoir les pieds sur terre, c'est-à-dire à assumer ses charges du quotidien, qui sont aussi divines que la réalisation intérieure. L'homme a des pieds pour être sur terre et des mains pour œuvrer. Et ça, il faut faire très attention parce que c'est une faiblesse qui touche beaucoup d'êtres qui veulent absolument servir. Il faut qu'ils vivent. Il n'y a pas de précipitation là-haut. Ça n'existe pas.
Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation.
Voilà, il ne faut pas se précipiter. Ça veut dire qu'il faut... en fait, si vous voulez, c'est le problème de lâcher le lièvre en soi. Parce que si vous vous en faites trop dans cette vie, votre être vous mettra une vie de repos. Et la vie de repos, ça peut être de ne pas forcément retrouver le fil conducteur. On fait, voilà, il n'y a pas le feu au lac. Et c'est un handicap lié à l'illusion. Comme vous avez l'illusion du pouvoir, vous avez l'illusion d'être indispensable.
On n'est pas indispensable.
Tant pour une grande vie comme le père.
Les cimetières sont remplis de choses indispensables, vous voyez.
Ah oui.
Une maison aussi.
Alors retenez bien la phrase là, les unions supérieures doivent être exprimées finalement sur le plan de la vie physique. C'est-à-dire que vous avez des êtres qui, pour le bien de l'humanité, vont s'employer dans le domaine de la technique, dans le domaine médical, dans le domaine artistique. Ils ont une démarche aussi spirituelle que l'être qui le fait consciemment. Alors, nous nous occupons en réalité des tendances fondamentales et des dispositions innées dans l'expression divine qui amèneront à la fin la manifestation de l'âme suprême sur notre planète. C'est-à-dire la réapparition en présence physique de Sadat Kumara. Mais bien évidemment, il faut penser qu'il aura la visite de ses grands frères d'ailleurs et d'outre-espace.
Ça veut dire quoi?
Ben, ça veut dire que des êtres divins d'ailleurs et d'outre-espace viendront fréquenter cette humanité qui, au demeurant, se croit superbe, alors que pour l'instant, comme on dit, elle est un peu mise à l'écart. Compte tenu de ses pollutions et de ses lourdeurs. L'humanité constitue l'un des centres de forces originaux qui peuvent former et qui formeront un avant-poste de la conscience divine, une expression de la psyché divine manifestant finalement les trois remarquables caractéristiques physiologiques de la divinité, de la lumière, l'énergie et le magnétisme. Dans l'être humain, réflexion microcosmique du macrocosme, ces qualités sont exprimées par les mots illumination ou sagesse, activité intelligente et attraction ou amour. Voilà l'horizon qui attend les êtres du cinquième règne et qui par conséquent nous concerne les uns les autres. Si vous êtes là à dire, je sais que je vais vers le Père, c'est-à-dire que j'ai à être un représentant, une image de sa présence, eh bien vous avez là les aspects, les caractéristiques de son âme universelle. Alors pourquoi on dit Christ cosmique ? Ben parce qu'en fait, un Christ planétaire, un Christ solaire, un Christ cosmique, il est en unification avec ça. Donc vous avez des références et des repères.
Christ cosmique, c'est ça, Linda ?
Ça ne sert à rien de personnaliser. Parce que dès l'instant où tu es en démarche, en aspect monadique, tu es dans l'un. Alors, il y a une unicité en nous, avant qu'elle devienne unité. Et te donner un nom et établir un lien télépathique. Et quand tu établis un lien télépathique, tu établis une liaison électrique. Voilà. Alors il est prudent parfois de mettre des voiles comme s'en est donné pour Sanat Kumara. C'est pas son vrai nom. Mais il est sans nom dans la mesure où différents êtres, selon leur évolution, le connaissent sous différents canaux d'accès. Comprends bien qu'en tant qu'hommes célestes, ils ont des liaisons qui ne sont pas, comme on dit, axées à tout le monde. Hein. Donc ils savent, le téléphone est encore un instrument vulgaire, compère. Nous pouvons maintenant nous étendre quelque peu sur les déclarations précédentes de manière à donner une idée plus claire des deux manières suivantes. Les rapports de ces qualités divines ainsi que l'homme peut les saisir et les développer. La future responsabilité de l'humanité éclairée. Lorsqu'elle passe dans le nouvel âge, nous établirons ainsi les fondations de l'enseignement qui sera donné plus loin dans ce traité. Ce que nous évoquons dans l'aspect méditation, dans l'aspect future religion mondiale, c'est en fait l'émergence sur la Terre de cette centrale d'énergie à vocation solaire cosmique. Quand vous méditez, vous fonctionnez dans cette réalité. Et donc, comme je vous l'ai dit, mais on le verra la fois prochaine, nous sommes littéralement en sexe divin. Le bas invoque et le haut évoque en fonction de la qualité de l'invocation du bas. Un des points que j'ai cherché à faire ressortir dans tous les ouvrages précédents et déjà publiés, c'est que les lois de l'univers, les lois de la nature et les facteurs fondamentaux de contrôle qui déterminent toute vie et toute circonstance, restant pour nous fixés et inaltérables, sont l'expression, dans la mesure où l'homme peut les comprendre, de la volonté de Dieu. Et les règles ou facteurs vivants que nous considérons maintenant, et lorsque nous aurons compris et obéi, qui amèneront le contrôle de l'âme dans l'individu et dans l'univers, sont l'expression de la qualité ou nature de Dieu. Ils conduisent finalement à la pleine expression de la psyché divine. Mais si vous regardez ces règles et les lois, vous vous apercevez que c'est des lois de beauté, de pureté, de perfection et d'amour. La question pour nous est de dire, est-ce que nous aimons ces lois ? Les lois de l'univers expriment la volonté divine et conduisent à la manifestation du dessein divin. C'est la sagesse. Elle ordonne et alimente le plan. Les règles pour amener le contrôle de l'âme, là il faut mettre l'âme cosmique, hein, mais il n'y a qu'une âme, hein, c'est ce qu'il faut comprendre, expriment la qualité divine et conduisent à la révélation de la nature de Dieu qui est amour. Les lois de la nature ou les prétendues lois physiques expriment le stade de manifestation ou le point atteint par l'expression divine. Alors quand on parle de lois de la nature, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui on est en état relatif de la manifestation de la forme. Vous comprenez bien qu'avec les véhicules qu'on dispose, nous sommes dans des scaphandres. Et que l'esprit n'a pas la liberté se déplacer, de se manifester dans le monde où il est, on va dire, d'une façon légère. Et on a besoin, par là même, de véhicules de déplacement. Hein, ce qui veut dire que la finalité, si vous voulez, lorsque la planète sera sacrée, eh bien, c'est qu'il y aura, en fait, fusion entre la substance énergétique, donc le monde éthérique, et la matière dense, et vous aurez tout le globe qui sera en fait substance lumière. Cela voudra dire que l'esprit aura plein épanouissement et contrôle de sa manifestation, donc de la forme. Elle concerne, donc je reparle des lois de la nature, elle concerne la multiplicité ou la spécialité. Elle gouverne ou exprime ce que l'esprit divin, qui est volonté fonctionnant dans l'amour, est capable d'effectuer en conjonction avec la matière pour la production de forme. Cette révélation émergente produira la reconnaissance de la beauté. La première catégorie, les lois de l'univers, sont abordées dans le feu cosmique. La science moderne a beaucoup fait pour amener une compréhension des lois de la nature, et on peut compter sur elle pour ce faire, car l'âme conduit toute chose vers la connaissance. Quand la puissance de la psychologie divine et ses tendances et caractéristiques majeures seront reconnues, et lorsque la psychologie moderne détournera son attention de l'étude minuscule de la psyché de l'homme individuel, et généralement d'un individu anormal, il y en a, pour concentrer son attention sur les attributs psychologiques du plus grand tout, dont nous ne formons qu'une partie, nous arriverons à une nouvelle compréhension de la déité et des rapports entre le microcosme et le macrocosme. À présent, c'est à l'homme seulement que l'on attribue vraiment une âme, et on néglige l'âme de toutes les choses. Pourtant, l'homme n'est que le macrocosme des autres règnes de la nature. Voyez-vous, et c'est pour ça que nous avons à appréhender toute l'autre partie avec nous, microcosme, par rapport au macrocosme cosmique. Alors, les sept règles que nous allons maintenant étudier sont donc d'une importance suprême, car elles réunissent les idées clés qui révéleront la déité en action en tant qu'âme de toute chose. Elles révéleront la nature et la méthode d'activité du Christ cosmique. Alors là, tous ceux qui auraient à vouloir avancer dans la compréhension de tout ce qui est la psychologie, et notamment ésotérique, et bien là, vous avez, comme on dit, le chantier de départ. C'est bon quand même de savoir ce qui nous dépasse. Hein.
Ça permet de dépasser nous-mêmes. Hein.
Ah, oui, et puis le fait de dire, ah tiens, l'horizon, il recule. Là,
C'est quoi les marches ? Donc ça bouge.
Joël est plus à dire tais-toi et rame. Et alors après lâchement il dit pagué. Bon, avant d'aller plus en avant sur ça, est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez éclaircir? Non, ça va? Mais sincèrement, ça peut devenir ce document peut devenir pendant un certain temps un livre de chevet.
Oui, il est puissant, ça. Oui, mais ça part aussi.
Attends, quel est le problème? Le problème, c'est que les pionniers du 5e Reich, hein, ils sont obligés, comme on dit, d'avancer, on va dire, dans le brouillard. Hein, parce que, je ressens, je perçois. Bon. Mais là, ça se clarifie. Hein.
Il est beau comme texte.
Hein, ça se clarifie, tu te dis, bon, ouais, là j'ai des repères maintenant. Hein, je sais que de toute façon, tout est conçu par amour et beauté. Ça rassure déjà, hein, ça nous voit quand même au cœur. Hein. Alors, les sept rayons, ainsi qu'on l'a souvent dit, colorent ou qualifient les puissances et les instincts divins, mais ce n'est pas tout.
C'est où ça?
Je suis... Après, je viens d'expliquer, là, les sept règles sont d'une extrême importance. Vous l'avez, ça? Bon, ben, le paragraphe suivant, j'y suis. Si vous voulez la référence @, c'est 229. Alors, les sept rayons. Je vous rappelle, les sept rayons, c'est en fait les énergies qui sont émises par ces sources cosmiques. En d'autres termes, elle véhicule les énergies des aspects des êtres cosmiques. Elles auront donc une triple action sur la forme, sur la conscience et sur la vie. Mais ces êtres rayons sont également imparfaits. S'ils étaient parfaits, la planète serait sacrée. Vous prenez l'amour-sagesse, vous voyez bien que cette énergie n'est pas à courir le monde, pour l'instant. Donc le travail, le chantier de l'être rayon, a encore du travail à faire.
Ça ne veut pas dire qu'il est imparfait. Il n'a pas touché suffisamment de personnes.
Et c'est son chantier. En tant que choix cosmique, il a choisi le sentier de rayon. Il a choisi un domaine pour œuvrer qui est la Terre.
Oui, c'est au niveau du résultat.
Et il ne faut pas croire que l'aventure est facile.
Mais il œuvre sur l'univers, non ?
Non, tu as un rayon cosmique qui travaille sur un univers, tu as un rayon, un être rayon au niveau du système solaire, tu as un être rayon au niveau de la Terre.
D'accord.
Alors, quand tu prends Maitreya, eh bien, pour l'humanité, il est cet être rayon d'amour-sagesse. Hein, vous comprenez bien ? Et quand vous rayonnez, ben vous l'aidez à améliorer son efficacité. Ce qu'il faut saisir, si vous voulez, c'est cette mise en dépendance volontaire et intentionnelle pour sauver et faire évoluer les vies.
Bernard, une petite question. Est-ce qu'ils ne sont pas parfaits parce qu'ils émanent de centres qui eux-mêmes ne sont pas parfaits ? Par exemple, si on prend le rayon, je ne sais pas, je ne veux pas me dire trop de bêtises, alors...
On prend le deuxième rayon, l'amour-sagesse.
Oui, alors, mais je ne sais pas les rayons de l'amour-sagesse, d'où ils viennent, de quel...
Ah bah, c'est-à-dire que tu as un rayon qui est au niveau cosmique, donc tu as le deuxième rayon au niveau cosmique. Pour notre univers, il vient par les Gémeaux. Il rentre dans notre univers par les Gémeaux.
Oui.
Bon. Ensuite, il va être intégré dans le système solaire. Bien sûr, tu as un Bouddha solaire qui concerne le deuxième rayon, qui entoure le Logos solaire. Et puis, tu as un être rayon qui va véhiculer ce rayon, et notamment Jupiter et Vénus, sous aspect du deuxième rayon.
Pardon ? En provenance.
Comment ?
Leur provenance.
Eh bien, cette grande vie qui s'est éclatée en manifestation au niveau cosmique.
Merci.
Tu as dans la planification, universelle des cycles de manifestation des vies selon leur niveau d'évolution. Bon. Il nous est donné d'appréhender la manifestation d'une vie qui, pour nous, est dans les ténèbres lumineuses les plus lointaines à notre accès, qu'on appelle une vie para-brahmanique, et qui, par définition, donne la vie à cet univers. Cette vie va être relayé par des vies plus jeunes, pour nous, comme on dit, très vieilles, qui donnent chacune la vie à un univers. Dans un univers, tu as sept vies, sept systèmes solaires. Dans le système solaire, tu as sept planètes sacrées, cinq, on l'a expliqué tout à l'heure, dans leurs caractéristiques entre sacré et non sacré. Et à partir de là, tout ça, c'est des réductions des énergies qui sont pulvérisées dans la manifestation. Mais ce rayonnement, il va jouer sous l'aspect forme, donc véhicule pour les vies, sous l'aspect conscience et sous l'aspect vie.
J'avais mis les pattes à l'envers.
Non, okay,
bon.
Non. Et puis, n'oublie jamais, il y a toujours à gagner à demander des précisions.
Merci.
Parce que il faut bien comprendre que, en fait, on doit d'abord au départ appréhender la dimension générale des choses. Et on ne va pas, comme c'est un immense château céleste, on ne va pas aller dans la quatrième aile, la troisième chambre, tu vois. Donc on est obligé d'y aller progressivement. Parce que si l'instructeur vous emmène tout de suite là, vous allez dire, mais attends, c'est où ce bazar-là? On en est où, là? Voilà. Alors, ce que vous voyez, bah, c'est qu'au fur et à mesure, on pénètre, on approfondit, mais le reste, en fait, prend plus de précision. Alors, pour l'instant, bah, si tu veux, sur les rayons, ils ont d'abord agi sur le côté forme, hein, donc adapter nos véhicules dans les mondes où l'on se manifeste, pour ensuite développer la conscience de ces mondes et ensuite donner accès à la vie dont les desseins sont précisément de faire avancer ces mondes. Le tout est de savoir où tu joues, à quel niveau tu joues.
C'est-à-dire on est dans un des sept.
Non, tu es plus que dans un des sept mondes. Ah bon. Ta racine de vie, elle est sur le plan monadique. Tu vas jusqu'au plan terrestre. Au fur et à mesure que tu te réalises, tu as accès à tel ou tel plan. Sur chaque plan, tu as un véhicule de contact. Donc au fur et à mesure que tu te réalises, et ben, comme on dit, tu n'es plus qu'une présence terrestre, tu es une présence sur le monde astral, tu es une présence sur le monde mental, tu es une présence sur le monde bouddhique, tu es une présence sur le monde atmique. Et ensuite, tu es en présence monadique, c'est-à-dire tu es uni au Père. Ce qui permet, tu peux dire authentiquement, si c'est le cas, mon Père et moi sommes un. Parce que je suis dans le champ de conscience du Père. Et je sers la vie. Et la chose qu'il faut saisir, c'est que ça nous attend tous. C'est un autre mode. On fait comme on le sent. Voilà. La seule chose, c'est de savoir, bah, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez, au stade de progression, vous avez des êtres que vous êtes qui avaient atteint un certain stade d'évolution et par conséquent souhaitaient assumer votre réalisation de vie et servir la vie en connaissance de cause. D'où nos rendez-vous. Et cette richesse, elle vous est acquise dès l'instant où vous tenez bon. C'est-à-dire que dans la vie suivante, vous retrouverez, à votre mode, les clés. Et je pense que c'est le meilleur souhait qu'on peut avoir. C'est de dire à la fois suivante, hein, parce que je sais très bien, bon, chacun a son âge, mais je sais très bien que j'ai vu souvent des réflexions dans des groupes où dire à la personne qui a déjà atteint l'âge de retraite, qui dit, oh là là, il y a des jeunes, ils ont 20 ans, ils sont déjà au parfum, ils sont déjà au fait des choses.
Tant mieux.
C'est des vieilles âmes. C'est donc ils repartent avec cet atout, on va dire, capital, quoi.
C'est tant mieux, ça peut être que bénéfique pour nous.
Alors, ces règles s'expriment avec une puissance égale sur chacun des sept rayons. Donc on comprend bien, hein, les sept rayons, en fait, c'est l'énergie qui permet la manifestation et l'épanouissement de la vie. Les sept rayons colorent ou qualifient les puissances et les instincts divins. C'est-à-dire depuis la source, hein, vous avez depuis le plan monadique cosmique. Hein, vous voyez l'échelle. Vous avez des vies grandioses qui occupent les mondes en dessous. Et bien évidemment, au fur et à mesure que l'on descend de dimension de vie en dimension de vie, il est nécessaire que l'intensité et la puissance de l'énergie donnée soient réduites. autrement bonjour, hein, les feux, au sens la maison les crame. Bon, jusqu'au plan le plus bas. Et le rôle de ces êtres énergie, il faut que vous passiez à la dimension de compréhension que vous avez fondamentalement des vies qui sont manifestées par un véhicule, on va dire, statique. Et puis vous avez des êtres dont le corps de manifestation est un souffle d'énergie. Un être rayon a comme corps de manifestation toutes les vies qui l'accueillent. Dans votre méditation, quand vous allez exprimer avec sincérité amour, 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 l'énergie christique vous traverse. C'est pas plus simple que ça. Ça implique simplement un respect et une authenticité. Et il est en vous. Donc dès l'instant où vous tenez la porte ouverte, en d'autres termes, l'amour, c'est l'unité. Donc ça veut dire, dès l'instant où vous n'allez pas nourrir de séparativité, donc la critique, la cruauté, hein, eh bien, il passe. Vous avez laissé la porte ouverte. Et bien évidemment, si vous donnez dans la séparativité, clac, comme on dit, un courant d'air, hein, ça referme, clac. Lui ne peut pas, au stade d'évolution de Maitreya, il ne peut pas, comme on dit, se prendre des pollutions. Alors, ils sont eux-mêmes déterminés, contrôlés par ces puissances. Les rayons sont les sept expressions majeures de la qualité divine qui limite. Et elle limite en fait les desseins de la déité. C'est-à-dire que vous comprenez bien que si on avait évoqué il y a 4000 ans l'amour-sagesse, imaginez les difficultés qu'avait le Christ il y a 2000 ans pour parler de corps énergétique. Et il a fait la tentative. Détruisez mon corps physique, 3 jours après, je serai encore de lumière parmi vous. Regardez aujourd'hui, quand vous avez une apparition en corps énergétique d'un être qui aujourd'hui fait partie des guides, en l'état Marie, cet être qui a été Marie, qui fait ses apparitions en corps énergétique, et regardez comment les gens sont là à se demander ce phénomène. Ce qui est quand même ahurissant, c'est de se dire, il n'y a pas les explications toutes simples.
Il n'y a pas de mode d'emploi, oui.
Mais il faut aussi vous dire que si on évoque ça, et vous en avez de temps en temps qui essayent à leur manière de le dire, ils sont regardés comme des gens un peu dérangés. Hein.
Oui, mais pourquoi? Parce que là, en fait, c'est la science actuelle, disons, qui est dans la...
Dans le mental concret.
Dans la matérialité, de toute façon, concrète, comme le dire, ouais. Et qui n'admet pas, disons, ce qu'elle ne peut pas mesurer. Et tant qu'elle en restera là, de toute façon, ça sera bloqué.
Bah, les limites de l'incompétence du mental concret, si tu veux, c'est la suffisance et les certitudes. Ouais. Puis alors après, il y a un marais qui s'appelle le doute. Bah oui, mais là, tu t'en vas dans l'astral et le mental. Dieu lui-même façonne suivant un modèle qui est dessiné pour lui dans une vision encore plus lointaine. En d'autres termes, le père de la planète a une partie du dessin. Ce dessin lui est donné par le logos solaire, lequel a une partie du dessin du logos cosmique. Donc vous comprenez très bien que l'aventure humaine n'est qu'une partie d'un vaste ensemble. Mais n'oublions jamais que l'évolution est à l'infini. Et vous avez une phrase qui vous explique bien ça, qui vient des ânes, n'est-ce pas ? Ayant créé ces univers d'une parcelle de moi-même, je demeure. Moi, la vie, l'absolu. Je poursuis, je saute, hein, c'est pour que vous ayez des petits repères et puis vous approfondirez. Dieu, non, l'enseignement bouddhiste ne reconnaît aucun dieu ni aucune personne, en majuscule. Notre approche et notre point de vue sont-ils donc faux ou bien sont-ils justes ? Seule une compréhension de l'homme en tant qu'expression divine dans le temps et l'espace peut révéler ce mystère. Bon, là, vous savez très bien que on l'a vu dès le départ, mais il est peut-être bon le moment présent de le rappeler. Il y a une seule réalité qui n'a ni début ni fin, qui est la cause sans cause, l'absolu. Et cet absolu n'est pas un être. C'est l'être-té. C'est l'espace abstrait absolu. C'est la conscience absolue ou mouvement absolu. Et par conséquent, cet absolu, dans son absolue conscience, a considéré qu'il n'y avait aucune gloire à être cela. Voilà. Et comme nous avons notre racine de vie dans l'absolu, c'est parti pour un tour infini. Dans la forme et dans la manifestation, la seule façon dont un mental et un cerveau humain peuvent exprimer la reconnaissance de la vie divine qui conditionne est d'exprimer en termes de personne, d'individualité. De là vient que nous parlons de Dieu comme d'une personne, de sa volonté, de sa nature et de sa forme. Alors, nous avons parlé de loi. Eh bien, les lois de la vie sont nos lois. Puisque lorsque nous sommes dans l'un, retournant à notre source, eh bien, nous quittons nos limitations d'individualité. Et c'est pour ça, si vous voulez, que au-delà des 7-13, et notamment parce que vous avez la tendance à la synthèse, je vous invite à mettre à côté l'individu universel.
En face de quoi ?
Comment ça va, synthèse ?
Vous avez la première règle qui est reprise, ouais. La tendance à la synthèse. Mmh. Hein ? Eh bien, mettez à côté, l'aboutissement, c'est l'individu universel. Il faut pouvoir générer des mots qui recèlent de nouveaux concepts.
Je sais pas. Où est-ce qu'il faut mettre cette...
Au début de cette
phrase. Voilà, t'as la tendance à la synthèse.
C'est bien.
Voilà. Au début de cette... Mais on n'a pas le même
document. Page 15.
Oui,
Au début des sacrifices.
La tendance à la tête.
Tu mets à côté l'individu universel. Si tu veux l'aboutissement des règles que l'on étudie, qui caractérise la nature psyché du Christ cosmique. L'aboutissement de la synthèse de ces sept règles, c'est l'individu universel. En un seul mot, hein ? Ben oui, c'est-à-dire, si vous voulez, un, nous avons acquis à tout jamais l'individualité de conscience. Mais il n'y a pas mon âme, il n'y a pas ton âme, il y a l'âme, c'est-à-dire la conscience universelle. Simplement, au fur et à mesure que l'on monte en réalisation, on arrive à cette conscience universelle. Ça va donner quoi ? Ça va donner l'omniprésence. C'est pas dans le texte, vous pouvez noter. L'omniprésence, parce que l'être se sait être un avec tous les êtres au niveau de l'espace énergétique. Il n'y a pas de séparativité en tant qu'être énergie. On est dans un vaste océan. On est d'une goutte de vie dans un océan de vie. Donc ça vous donne l'omniprésence. Vous avez l'omniscience, qui n'est pas la bibliothèque de toutes les sciences humaines, mais qui est la connaissance du livre de la vie, du livre de la sagesse et du livre de la connaissance. Et que vous allez étoffer en appréhendant les lois de la nature, les lois, les règles de l'âme et les lois de la vie. Et quand vous aurez appréhendé cette dimension du Christ cosmique, il vous faudra aller au Père cosmique. Et là, vous aurez l'aventure de l'intranscendanté. C'est-à-dire remonter au plus haut des cieux. Ce que nous devons retenir, c'est que il n'y a d'individualité qu'au sens pour l'homme de la manifestation. Hors manifestation, il ne connaît plus l'individualité. En tant qu'être, en tant qu'âme, on ne connaît pas l'individualité.
C'est-à-dire que l'individualité est un processus.
Elle est liée à la soi-conscience, mm-hmm. et par conséquent, à l'épousaille de la vie plus grande avec les vies mineures. Là, vous avez l'individualité de conscience. Quand vous libérez cette union, l'être est libéré de sa dimension limitée de conscience. Donc, il retourne dans l'absolu, la conscience absolue, mais dans cette conscience absolue, si vous voulez, il y a l'absolu pour lui-même, à jamais inaccessible, même pour la vie la plus grandiose, et puis, vous avez l'un non manifesté, l'absolu non manifesté.
Mais si on regarde bien ce qui se passe avec l'astrologie, en fait, c'est un passage nécessaire que l'individu, quand il descend, qui passe par la croix mutable, qui doit ensuite
la croix fixe,
retourner.
Mais c'est coup, parce que.
Il doit passer par cette individuation.
Parce que le 4 donne l'unité de conscience. Le règne animal a donné l'instinct, le règne humain donne l'individualité. Mais cette individualité, malheureusement, dans notre aventure terrestre, a donné la séparativité. Il y a des humanités qui n'ont jamais chuté au sens séparativité. Et donc n'ont pas à connaître la souffrance. L'union de la vie centrale avec les vies mineures de ces corps crée la dimension de conscience. Cette conscience, au départ, et si on prend l'aventure des races, au départ, l'être humain était divinement épanoui, pauvre en conscience. Et au fur et à mesure qu'il descend dans la matière, il perd de son aspect divin, il émerge en aspect conscience. Mais il lui faut maintenant retourner à sa source, après l'expérience, en disant « j'ai accompli mon rôle au sens où j'ai fait évoluer les vies mineures qui m'étaient confiées. » Nous avons chacun ce chantier. Ne t'interroge pas qu'intérieurement.
Non, parce que j'ai peur de me contredire.
Je te dis, ne t'interroge pas uniquement intérieurement. Si tu dis une connerie, de toute façon, on dira que c'est une vie mineure qui a envie de parler.
Tu viens de dire que en perdant son aspect divin, l'homme acquiert de la conscience.
Au fur et à mesure qu'il descend dans la matière.
D'accord. Et quand on a l'aspect divin, on n'a pas la conscience ?
Non. 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 La conscience, elle vient du Fils. Le Fils, c'est le résultat de l'union de l'esprit et de la matière. La conscience repose sur le postulat de l'absolu. Les vies plus âgées incluront dans leur manifestation les vies plus jeunes. Or, les vies sont pur esprit. Bien sûr, avec un sentier à l'infini d'évolution. Bon. Mais la vie comme telle, elle est dans sa conscience de vie. Elle n'est pas en conscience de manifestation. Donc quand tu quittes ton corps physique, tu rentres dans une dimension supérieure et tu perds conscience, c'est-à-dire l'échange sensoriel et psyché avec tes vies mineures.
Donc tu gagnes un autre type de conscience.
Oui, mais totalement différent. Oui. Totalement différent, qui est aussi limité que tu l'es avec ton véhicule. Si tu veux faire une analogie. Tu dois être conscient que ton véhicule, pour l'instant, il n'est pas du tout, comme on dit, à l'idéal de ce que tu pourrais attendre. Et que le développement de la forme, hein, lié aux rayons, mais les rayons sont des êtres supérieurs en tant qu'évolution, et par conséquent, ils savent très bien qu'on ne va pas confier aux vies humaines des véhicules dont ils ne feraient que des dégâts. Hein, je vous ai déjà dit, imaginez si quand l'homme animal est rentré dans le règne humain, on lui avait donné les véhicules d'aujourd'hui, vous imaginez le vaste lupanar que ça serait donné. Et bien, donc voilà, et bien, comprends ça, à savoir que la soi-conscience est le fait du Fils, donc de la vie en incarnation, c'est-à-dire d'une vie majeure s'est entouré dans son monde de manifestation de vie mineure, et c'est ce que t'y donne l'individualité de conscience. Alors au stade humain, c'est la soi-conscience, mais pour les règnes de la nature, c'est une conscience limitée, mais progressive. Le scientifique te dira aujourd'hui que dans l'atome, il y a au moins 36 000 fonctions mémoire, selon la situation dans laquelle il se trouve. Il réagit différemment. L'arbre, le renne végétal, c'est la sensibilité. Le renne animal, c'est l'instinct. puis on arrive à l'intellect avec l'homme. Mais c'est le mental concret. Alors il est persuadé que il a la plus grande des merveilles dans la tête.
Mais quand on arrive à la mort sagesse au-dessus d'une conscience.
Ben oui, ça s'appelle l'intuition. Et puis après, tu rentres en conscience de l'homme céleste. Puis après, tu passes dans des consciences encore plus élaborées. Mais en toi, dans ta racine de vie, il y a la potentialité de la conscience absolue, que tu n'atteindras jamais, mais qui va t'entraîner dans des espaces d'évolution. Ça ne fait pas le tournis. Tu vois que tu avais besoin de te poser la question. Ce qu'il faut, c'est sortir de l'idée que notre dimension de conscience est la limite de l'évolution. Elle n'est que le point de départ. Tu comprends ça? Et elle doit être dépassée. Le mental doit être dépassé. D'où l'intuition, qui est la faculté de saisie du vécu de l'être christique. Tu n'as pas besoin de raisonner pour accéder à la réalité des choses.
Non, mais là, tu abordes un autre niveau de conscience, en fait, parce que jusqu'à maintenant, je croyais comprendre que dans le sens allé, de toute façon, il n'y avait pas de notion de conscience. Le minéral n'avait pas de conscience. Si c'est une conscience, c'est conscience de groupe, je dirais.
Non, de masse.
De masse.
Pas de groupe.
De masse. De masse. Et plus on allait sur une individualité de conscience qu'on acquiert au niveau de l'être humain. Et moi, c'est vrai que j'avais cette notion de conscience qui était un petit peu monoforme, qui n'avait qu'une seule notion, en fait. Je n'avais pas cette notion de conscience.
Je vais même aller plus loin. Le Christ a sa conscience limitée à l'évolution des humains, ouais. Comme tout maître. Il est donné au maître, j'emploie des termes, j'aime pas trop, il est donné au maître de progresser par ce qu'il fait progresser. Il est conditionné.
Notre conscience et la sienne sont très liées.
Oui, c'est-à-dire qu'on est en interdépendance de réalisation. Mais c'est normal. C'est normal. Parce qu'autrement, tu vas générer une séparativité qui, là, ne sera plus inférieure, mais supérieure. Tu vois, du genre, il nous casse des merdes.
Oui, mais je reviens à ce que je disais.
Vous comprenez le schéma?
Il n'y a conscience que lorsqu'il y a eu matérialisation, c'est-à-dire que lorsqu'il y a eu manifestation, c'est-à-dire dans le sens retour et non pas dans le sens aller.
Non. Dans le sens aller, tu as alors, il y a deux choses. Tu as le minéral à la conscience absolue, à l'état latent. Mais il n'a qu'un centre. L'homme en a sept. Bon. Au stade humain, la conscience dans l'aller est potentielle. La vie part, elle est divinement en extase. Tu vois, c'est-à-dire que la vie n'est pas encore, je dirais, attirée, accaparée par ce qu'elle a rassemblé autour d'elle.
C'est une potentialité.
Elle est en état potentiel, mais voilà. Alors le problème, c'est qu'il faut qu'elle réalise qu'elle a, elle a ça en charge.
Après, elle devient cinétique.
Au même titre qu'aujourd'hui, chacun de nous, on a encore en charge des vies mineures, n'est-ce pas, qui cassent la baraque.
Donc, et notre évolution de conscience, comme vous le disiez tout à l'heure, dépend de l'autre, du travail que nous allons faire par rapport à notre
vie mineure. Oui, et votre propre évolution de conscience dépend du travail que vous faites sur vos vies mineures.
Bien sûr.
Vous comprenez le processus? Le Père, par exemple, qui est appelé le grand sacrifice, qui a repris son chantier il y a 18 millions d'années, Eh bien, il est appelé le grand sacrifice parce qu'il a arrêté son évolution cosmique. Hein? Donc il l'a fait par amour, mais aussi il entend solder son passif karmique. Et donc il a dit, ah ben, je préfère me consacrer uniquement. Hein? En d'autres termes, le Père a les pieds sur terre. Il a cessé de dire le ciel cosmique, on verra plus tard.
Il est dans le bain. Voilà.
Mais il ne faut pas perdre ça de vue. Hein. Bon. Je voudrais que quelqu'un me lise les déclarations du Christ selon l'évangile de Saint Jean. Quelqu'un qui parle à haute voix.
Alors donc, oui, alors ici, parce que
tu parles plus fort.
Et maintenant, je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, de même que je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, de même que je ne suis pas du monde. Je ne prie pas pour eux seulement, mais pour ceux aussi qui croiront en moi, Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'ils soient aussi un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et la gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée, afin qu'ils soient un, de même que nous sommes un. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient une gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde.
Voilà, dans cela, tout est dit.
J'avais lu celui-là.
J'avais lu, c'est desquels
Ah, il y a les références. Hein.
Oui, chapitre 17, hein. C'est le chapitre 17, c'est le plus important de l'évangile de Jean, de toute façon. Parce que c'est vraiment ça le message, et qui correspond bien d'ailleurs sur le plan symbolique au numéro. Du chapitre.
Oui, le grand 17.
Parce que c'est le grand 17, c'est la parole. P, F, n'est-ce pas ? C'est la 17e lettre de l'alphabet hébreu. Il n'y a pas de hasard là non plus. Hein.
Oh, bah c'est tout. Le passage, le 17. Ouais. Le passage, donc.
Entre 16 et le 18. Comment on appelle ça ?
Oui, mais il faut l'écrire, si vous voulez, en symbolique, il faut l'écrire. Vous avez le cercle. Hein ? Vous avez l'étoile à 5 branches et le 1 qui traverse. Ça veut dire que ce qui est en haut sera comme ce qui est en bas et inversement. Voilà, donc c'est pour que vous voyez que en fait, eh bien, tout est en concordance depuis bien longtemps. Hein. Ici se trouve exprimée la synthèse de l'âme avec l'esprit, la synthèse de l'âme avec la matière, est également mise en évidence. Mais la synthèse de la déité, sa tendance à fusionner, sont beaucoup plus inclusives et universelles qu'aucune autre expression possible dans le règne humain qui est, après tout, seulement une petite partie du plus grand tout. Relativement à l'homme, hein, je saute, hein, nous avons considéré comme admises les expressions psychologiques suivantes. 1. L'instinct situé au-dessous du niveau de conscience, mais protégeant et gouvernant la plupart des habitudes et la vie de l'organisme. Vous comprenez bien qu'aujourd'hui, on a un véhicule qui fonctionne, on va dire, automatiquement, même s'il accuse les perturbations, et que ce n'était pas le cas il y a 18 millions d'années. il a fallu à l'unité centrale apprendre à gérer son organisme, à le faire fonctionner. Et il faut savoir que c'était tellement une épreuve que les êtres qui, à l'époque, fonctionnaient en harmonie le corps énergétique et le corps dense, eh bien ces êtres sortaient du règne humain. Au même titre que les êtres qui, à l'époque Atlante, ont stabilisé leur corps de sensibilité, c'est-à-dire la partie inférieure du plan mental, du mental concret, dont la fonction était bien sûr la perception sensible du ressentir, mais qui ne tombait pas dans le piège d'en faire une fin, un but, mais uniquement un moyen, ces êtres pouvaient sortir du règne humain. Au même titre qu'aujourd'hui, dans la race aryenne, la troisième, notre cinquième race, la troisième par rapport, on va dire, au corps physique, hein, parce qu'il y a deux façons de lire, ou vous prenez les cinq races, ou vous prenez à partir de la race physique, hein, la troisième. Bon. La cinquième, eh bien, c'est la maîtrise du mental. Avec, bien sûr, les corps qui sont liés. Hein, c'est pour vous montrer qu'au fur et à mesure de l'évolution, eh bien, il y a la maîtrise. Ce qui veut dire que la septième race, elle devra assumer sa divinité sur la Terre.
Ah, la barre est de plus en plus haut.
Ah ben, au même titre que, je reprends, à la troisième race, donc les corps physiques, l'être pouvait sortir à la première initiation. La porte de sortie était la première initiation. Au moment astral, c'était à la deuxième. Aujourd'hui, c'est la troisième. Tu comprends ? Bon. Et comme ça a boosté fort, on en est à la libération, à la sixième maintenant. L'aventure, le fait que le père a voulu, si tu veux, dans sa marche forcée, donc l'initiation, eh bien, quand a été instaurée la troisième, immédiatement a été enclenchée la cinquième. Mais ça, c'est le résultat de cette, ce qu'on appelle la marche forcée de l'initiation. Tu vois ? Alors, c'est l'instinct. Une grande partie de la vie émotionnelle est ainsi gouvernée. C'est l'instinct qui contrôle par la voie du plexus solaire et des centres inférieurs. Alors qu'en fait, ça devrait, si vous voulez, être stabilisé, intégré, équilibré. L'intellect, qui est soit conscience intelligente, guidant et dirigeant l'activité de la personnalité intégrée, par la voie du mental et du cerveau, et opérant à travers le centre de la gorge et le centre ajna. On en est encore loin. Hein. Parce que le centre de la gorge, il y en a plus qui fonctionnent encore en centre sacré. Et le centre ajna, il y en a plus qui fonctionnent encore avec le centre basal. Hein. Et c'est ce qui explique en partie, si vous voulez, le fait que notre humanité bloque en fait la porte de passage au règne animal. Parce que le règne animal devrait occuper le centre de la gorge, c'est-à-dire s'épanouir, si tu veux. L'intuition qui concerne d'une manière prédominante la conscience de groupe et qui contrôlera finalement toutes nos relations avec les autres dans la mesure où nous conditionnons en unité de groupe. Elle opère au moyen du cœur et du centre cardiaque. Elle est l'instinct supérieur qui permet à un homme de reconnaître son âme et de se soumettre à elle, à son contrôle et à son expression de vie. En fait, si vous voulez, là, n'est rappelé le fait simplement que nous sommes un être de lumière, c'est-à-dire une âme. nous détenons cette dimension de conscience. Nous sommes l'ange solaire. L'illumination, mot qui en réalité devrait être employé pour désigner la conscience suprahumaine. Vous mettez au-dessus Manas et Atma. Cet instinct divin qui permet à l'autre de reconnaître le tout dont il représente une partie. Il fonctionne par la voie de l'âme de l'homme en utilisant le centre de la tête et finalement en inondant de lumière ou d'énergie tous les centres, reliant ainsi en conscience l'homme à toutes les parties correspondantes du divin tout.
Mais ce qui est dit là, c'est ce qu'on trouve dans le texte de Jean qui vient d'être...
Oui. Mais Jean était un disciple bien-aimé, c'est-à-dire qu'il était très près du champ de conscience du Christ. Ça veut dire ça, c'est pas aimé affectivement. Bien-aimé, ça veut dire qu'il était au plus près du champ de conscience de Maitreya. C'était lui qui était au plus près.
C'était en résonance.
C'est vrai qu'il s'est engagé à rester incarné jusqu'au retour du Christ.
Oh, il n'y a pas que lui.
Mais lui.
Oui, bien sûr, mais il n'y a pas que lui. Puis les 12 n'ont pas été aussi saints que l'Église le pense. C'est des galopins, les 12. Ainsi, la tendance à la synthèse est un instinct inhérent à l'univers tout entier. Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est qu'un champ de conscience qui a été assumé, qui est dépassé, devient un instinct spirituel ou divin. Donc ça devient, si vous voulez, un automatisme naturel en dessous du seuil de réflexion. C'est spontané. Un être qui est sage est un être qui fonctionne instinctivement, hein, comprenez le terme, c'est-à-dire c'est automatique chez lui, avec intelligence et amour, c'est-à-dire juste relation. Mais en vous rappelant qu'un être d'amour peut être dur, exigeant et sévère quand il le faut.
Mais ces différentes règles doivent exister à tous les niveaux.
Imagine le dépassement de l'espace de conscience qui est entre le minéral et nous. Eh bien, entre le logos planétaire et nous, il y a une proportion semblable. Ce qui n'empêche pas de te dire « mon enfant, mon frère ».
Nous ne sommes qu'un.
Ben oui. Oui, mais attendez, hein, la séparativité liée à l'individualité, elle a fait du dégât. Hein. Alors que tout nous l'indique, regardez, là, actuellement, on partage l'air. Or, l'air est la correspondance du plan Christophe. Alors, bien sûr, ce que les anciens, et notamment les alchimistes, désignaient par l'air, c'était le noumen de l'air, hein, c'était pas l'air physique, hein, mais l'énergie du plan bouddhique.
S'il te plaît. Donc, à la place de l'individualité, il aurait dû y avoir quoi ?
Non, elle est nécessaire.
Ah bon ?
Si tu veux, l'individualité est un don obligé pour l'évolution.
Des sous l'herbe du poisson.
Oui, pour faire référence, si tu veux, au cycle. Hein? Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie une dans l'évolution accorde les richesses de la vie. Quand la vie arrive au stade humain, elle va recevoir l'individualité. Bon, mais la vie ne fait que passer dans les parcours d'évolution. Dans le règne animal, elle a acquis l'instinct.
D'accord.
Bon, et notamment l'instinct de survie, l'instinct d'évoluer, l'instinct de se reproduire. Bon, mais dans le règne humain, c'est l'intellect, quatrième règne. Dans le règne, dans le cinquième, c'est l'intuition. Dans le sixième règne, c'est la synthèse. Donc, si tu es intégré dans l'un, tu vas faire instinctivement ce que tu perçois de l'intention de l'un. Comment tu vas te réaliser dans l'identification avec le Père, mais en étant son simple représentant ? Ça veut dire que si tu as à participer à une délibération d'un ensemble, eh bien ta démarche sera de dire « je veille au bien de l'ensemble ». Mais tu vois pas ce que ça donne au niveau de nos nations ?
Oh, je vois déjà quand on est entre
amis. Bon, ou même en famille, c'est encore plus corsé.
Il n'y a pas longtemps. Et j'ai essayé comme ça,
d'assumer.
J'ai modéré le soir du réveillon, je crois que c'était la pleine lune qui m'a dit, parce qu'ils avaient tous un peu bu, ils commençaient à parler, et j'ai dit, enfin l'essentiel c'est que chacun puisse donner son point de vue et qu'on le respecte. Et paf, c'est tombé sur moi. Oh, toi avec ta psychologie encore.
Généralement, on est de bas étage.
Alors.
Mais attends, t'as affaire à des centres du monde. C'est normal.
Forcément.
Normal, tu vas. Non, mais attends.
Et ceux qui étaient en conflit, ils ne sont rien pris dans la figure. Rien. J'ai juste.
Ah, ils ont trouvé le bouc émissaire, alors.
Les pionniers ont assumé les plâtres.
Essuyé les plâtres, c'est ça.
Ça arrive toujours quand il est tard, on est fatigué, ouais, on s'y attend pas, ouais, on se voit en harmonie entre amis, ben non.
Ben oui, mais tu as l'explication de la séparativité, si tu veux. Quelle est la faute de l'humanité ? C'est d'être séparé, et notamment en allant au bout du bout, c'est-à-dire le mauvais usage de l'énergie magie noire. Tout est résumé à ça. Maintenant, il faut que l'humanité s'en sorte. Alors, ceux qui assument leur réalisation d'amour, leur réalisation de sacrifice, eh bien, ils se qualifient pour devenir seigneurs d'amour, de sagesse et de sacrifice. Mais c'est une qualification, si tu veux, qui s'inscrit dans l'évolution. Ce qui veut dire qu'ultérieurement, eh bien, un être viendra le moment venu pour apporter son rayonnement, lui qui est porteur de cette énergie.
Il faudrait bien qu'il se dépêche.
Hein. Ah
oui.
Mais attends, Marie-France, quand tu es venue, tu t'es inscrite dans cette réalisation. Autrement, tu ne serais pas là.
Et ne rien dire, c'est rien faire.
Non, pas forcément. Il y a des moments, tu ne peux pas, parce que ils vont ressentir. Le rayonnement que tu vas avoir va les ulcérer.
Voilà, c'est ça.
Non, ça, c'est pas tout à fait ça.
Je l'ai toujours avec la même personne.
Pardon ?
Je l'ai toujours avec cette même personne.
Parce que vous devez être sur les mêmes, certaines mêmes lignes d'énergie, mais qui vont en sens contraire.
Voilà,
donc, si toi, tu te mets à souffler cette énergie, lui, il le vit en inférieur, et si tu veux, c'est d'un côté ou des serviteurs ou des dictateurs. Donc, l'échange que nous avons, c'est surtout d'acquérir la connaissance du jeu divin. Bon, moyennant quoi, à l'avenir, tu te diras, bon, ça sert à rien que j'envoie une louche, parce que là, il va monter au créneau, là.
D'accord, mais alors, à ce moment-là, je m'en sors en ne disant plus rien. C'est-à-dire Il y a peu de choses à parler.
Non, tu as deux armes. Quand on ne peut plus rien dire, tu as deux armes. Oui. C'est l'humour et la finesse d'esprit.
Alors, là, oui, c'est à travailler.
Je t'explique. Et te raconter une histoire, ne prenez pas pour moi, mais simplement parce qu'elle l'illustre bien. On était au Touquet, on habitait le Touquet à une époque, et il y avait les tennis, pour ceux qui connaissent le Touquet. J'arrive derrière deux voitures qui sont, comme on dit, côte à côte. Ils ont baissé les fenêtres et ça tient bavette. Comme ça. Bon, c'est une grosse bagnole, je crois que c'était une Mercedes ou un truc comme ça. Et la jeune fille, il y a monsieur qui parle, il y a la dame, il y a la jeune fille. La jeune fille qui, je pense, se retourne et je lui fais. Elle éclate de rire, elle appelle sa mère, qui regarde derrière. Le gars, il a vu dans son rétro. Il est parti fou furieux parce qu'on lui avait cassé son cou. Tu vois ? Voilà.
Il était fou furieux quand même. Hein ? Il était fou furieux quand même. C'était pas fait l'objectif.
Du genre, je dérange pas, j'ai tout le temps, je patiente. Voilà. Non mais c'est ça. Bon, maintenant, Jewalkul te dira que le meilleur moyen de démonter une situation, c'est la dérision. C'est-à-dire de la personne, si tu veux, elle rentre dans sa suffisance, tu vois. Hein ? Centre du monde. Hein ? Les certitudes, ma suffisance. Bon. Et si tu arrives à lui donner, comme on dit, une pichenette qui le déstabilise, comme on dit, il se dit, la prochaine fois, peut-être que les autres se sont coulés de rire, la prochaine fois, peut-être que je ne jouerai plus à ça. Autrement, c'est la suffisance.
Alors, je m'aperçois que là, j'étais sur le territoire de cette personne pendant une semaine, en vacances. Alors que quand nous sommes dans un lieu neutre et que nous sommes sur un territoire où chacun assume son chez-soi, j'ai plus facilement la répartie.
Mais il est dans son château.
Comment ?
Il est dans son château. Il faut regarder.
Mais je sais, moi, que je suis aussi, j'ai conscience que je suis sur son territoire. Je me sens plus.
Ça, c'est des vieux souvenirs de territoire d'animaux. Hein.
C'est
le rapport de la gazelle avec.
J'ai peur d'être réactionnelle, c'est pour ça que je ne réponds pas. Mais quand on est en terrain neutre, je me sens plus libre de faire ce que tu as dit, quoi, faire l'humour.
C'est les seuls arguments, si tu veux, que tu as. Tu peux pas le raisonner, il veut pas, il refuse. Donc la seule chose, c'est de le déstabiliser.
Merci Bernard.
Alors, la prochaine fois, on a. Tu m'as dit
le sexe.
Oui, le sexe. Alors, excusez-moi, juste un petit mot, je vous invite à bien sûr appréhender le sujet. Hein. Mais on ne termine pas pour autant l'étude de l'âme, hein, bien sûr. Mais simplement, sachez que on conclut ce cycle par. Connaître en fait quels sont les aspects de la nature du Christ cosmique. Voilà. Ce qui est pour nous ouvrir des horizons en disant j'ai peut-être à ressembler. Oui.
Je te vois le prendre, de toute façon. Tu me diras ce qu'il faut préparer.
Oui. Tu l'as eu, toi, en son temps, le dossier du sexe.
C'est pas éteint, ça, c'est à qui
tu l'as eu,
on va parler du sexe.